Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, pour qui sommes-nous prêts à payer l'impôt ? Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Telle est la feuille de route établie la semaine dernière par Édouard Philippe dans le cadre de la restitution du grand débat national. Un objectif qui, sauf surprise, sera un des axes des annonces qu'Emmanuel Macron s'apprête à faire ce soir. Or que la question fiscale soit à ce point mise en avant, voilà qu'il n'a rien d'incongru. Le mouvement des Gilets jaunes est d'abord un mouvement de révolte fiscale. Quant au grand débat, il en a fait un des principaux thèmes de discussion. Or, que ressort-il de ces dernières, sachant que l'échantillon qui s'est exprimé, pour être conséquent, n'en est pas forcément représentatif de la population ? Eh bien qu'au-delà de la pression fiscale, c'est le sentiment d'injustice qui domine, l'idée selon laquelle ce sont les autres et pas soi-même qui bénéficient le plus de la redistribution des richesses. Le consentement à l'impôt en est amoindri. Or, c'est ce consentement qui constitue un des socles les plus importants de notre pacte social. Alors, comment y remédier ? Et pour qui sommes-nous prêts à payer l'impôt ? Pour en discuter, trois invités. Anne Guillovelc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes syndicaliste, porte-parole du syndicat Solidaire Finances Publiques.
C'est ça.
Pour discuter avec vous, Philippe Nemo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, ancien professeur à l'ESCP Europe. Vous avez publié en 2017 au PUF Philosophie de l'impôt. Et puis troisième invité, Jérôme Fourquet, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directeur du département Pignon à l'IFOP. Vous avez publié il y a quelques jours de cela au Seuil l'archipel français Naissance d'une nation multiple et divisée, un livre qui vous a déjà valu d'obtenir le prix 2019 du livre politique. Alors dans quelques minutes, Emmanuel Macron interviendra, une semaine après la restitution, je le disais, du grand débat par Édouard Philippe, qui a parlé, il y a tout juste une semaine, d'exaspération fiscale, de tolérance fiscale zéro. Est-ce que d'abord, Jérôme Fourquet, vous qui avez l'habitude de sonder l'opinion et qui évidemment avez regardé de très près ce qui se disait dans le cadre de ce grand débat, est-ce que c'est vraiment un des éléments forts qui ressort de ce grand débat ?
Oui, incontestablement. Alors qu'il s'agisse des doléances qui ont été postées sur la plateforme en ligne par les nombreux participants, alors même si, comme vous l'avez très justement rappelé, ils n'étaient pas forcément représentatifs au sens où un échantillon peut l'être représentatif de la population française, mais ces participants très nombreux ont placé en première position la revendication d'une baisse de la fiscalité. Et puis quand on regarde, pour le coup, dans des enquêtes là réalisées par des instituts de sondage sur des échantillons représentatifs, on voit que cette fameuse exaspération fiscale est quand même aujourd'hui très très présente, avec, vous avez raison, ces nombreuses déclinaisons, c'est-à-dire c'est tant le degré de pression fiscale en lui-même qui est critiqué, que ce qui apparaît comme une insuffisante efficacité des services publics pour toute une partie de nos concitoyens au regard de ce qu'ils payent. Dit autrement, ils estiment qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Et puis, évidemment, il y a un autre volet à tout cela, mais tout ça est intriqué. C'est la question de la justice fiscale. Est-ce que la charge et l'effort est équitablement réparti à la fois sur ceux d'en haut, mais aussi souvent, ce qui est pointé du doigt, c'est sur ceux d'en bas. Et donc c'est tout ça qui est aujourd'hui remonte à la surface. Alors c'est pas totalement nouveau. On se souvient que sous les quinquennats précédents, d'autres locataires de Bercy avaient déjà parlé de ras-le-bol fiscal.
Donc ouais, c'est quand Pierre même Moscovici,
voilà,
à l'époque.
Voilà. Donc, le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'en dépit de la suppression de la taxe d'habitation, cette demande très forte de la population ne s'est pas éteinte, loin s'en faut.
Anne Guillovelc, quand vous entendez parler d'exaspération fiscale, est-ce que vous entendez autant de choses que ce que vient de dire Jérôme Fourquet ?
Je le formulerai différemment. Je pense que c'est un sentiment de... C'est pas moins d'impôts, c'est mieux d'impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sentiment d'injustice fiscale, il prend naissance à plusieurs endroits. Et effectivement, la contrepartie des services publics qui sont aujourd'hui bien mis à mal, notamment dans les services, dans les territoires dits ruraux, Les gens se questionnent pourquoi je contribue à l'intérêt général et moi en tant qu'individu je ne retrouve pas ce service. Donc il y a ce questionnement là qui est prégnant. Nous les collègues à l'accueil, c'est un sentiment qu'ils ressentent assez régulièrement. Après c'est
Vous voulez dire à l'accueil
dans les centres
des
finances publiques, c'est pourquoi moi je paye et pourquoi pour quel service ? Et quand on voit l'état des services publics, aujourd'hui il y a la PHP, les infirmières qui sont en grève, etc. Donc c'est tout ce sens et je pense que le débat, il ne doit pas se restreindre à moins d'impôts, parce que moins d'impôts engendrera encore une nouvelle fois une baisse de la dépense publique, parce que c'est cet argument-là qui va être à nouveau présenté. Et le service public aujourd'hui est indispensable pour la cohésion sociale.
Alors on va voir si Philippe Nemo partage votre point de vue. Mieux d'impôts plutôt que moins d'impôts, est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, vous, de votre côté ?
Non, je vois je pense qu'il faut beaucoup moins d'impôts. Et on est champion du monde. Ah, ça, c'est formidable. On est champion du monde en football et en impôts. Mais il faut peut-être s'interroger. Est-ce qu'on est le pays le plus riche du monde, le pays le plus heureux du monde, le pays qui fonctionne le mieux, celui qui a le plus de dynamique économique? Évidemment, non. On est le premier du monde pour les impôts et on est 25e en Europe pour l'éducation, par exemple, pour la production du système éducatif. Pareil pour le système de santé. Donc, il y a chercher l'erreur. Comment se fait-il qu'alors qu'on paye toujours plus, on obtienne toujours moins, qu'il faille faire la queue pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures aux urgences des hôpitaux, etc.
Parce que pour vous, la justification de l'impôt, ça passe par le fait que ceux qui le payent soient plus heureux, se sentent mieux dans la société. C'est ça qui peut justifier un niveau plus ou moins élevé d'impôt?
Mais ça s'appelle la justice. Quand vous donnez la justice telle qu'elle est définie depuis les Grecs, depuis Aristote et depuis le droit romain, ça consiste à rendre à chacun le sien, la justice. Et donc, si vous payez des impôts, vous devez avoir quelque chose en échange. Si vous ne l'avez pas, vous avez l'impression d'être volé. Et d'être volé par une bande organisée, hein, qui est l'État.
Cette idée de contrepartie, c'est une idée qui ressort, là aussi, quand vous sondez l'opinion, Jérôme Fourquet. C'est dire, oui, d'accord, on veut bien payer l'impôt, mais à condition qu'on en voit les effets.
Oui, c'est ça, tout à fait. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a à la fois le niveau perçu alors de la pression fiscale, à la fois directe et indirecte, hein, puisqu'on a bien vu que le mouvement des Gilets jaunes naît sur une taxe, une hausse de taxe sur l'essence, hein, donc c'est pas forcément l'impôt sur le revenu. On voit également que une des revendications qui a fait florès, c'est la diminution, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Donc il y a à la fois fiscalité indirecte et indirecte et cette pression fiscale qui s'exerce sur les foyers, sur les entreprises, notamment sur les plus petites. Et puis il y a également cette idée que soit les services publics en général ne sont pas suffisamment efficaces, efficients ou présents là où j'habite, soit également que un certain nombre de tarifs préférentiels auxquels d'autres ont droit, eh bien moi je n'y ai pas droit. C'est le fameux adage trop riche pour être aidé, pas assez pour bien vivre, hein, en disant voilà, on est des fameux effets de seuil. Donc il y a ça qui revient de manière très très forte. Puis comme ce qui a été dit également, dans un certain nombre de services publics, l'idée que la situation se dégrade, alors même que le taux de prélèvement obligatoire est très important en France, avec en point d'orgue effectivement les hôpitaux, qui sont quelque chose d'assez bien connu, voire de très bien connu par la majorité de nos concitoyens, et ils estiment que le compte n'y est pas.
Il y a un spécialiste de la fiscalité, enfin parmi d'autres, mais qui s'appelle Michel Bouvier, que vous connaissez sans doute, qui dit notamment ceci: les Français ont massivement le sentiment que l'impôt est mal utilisé. Par exemple, ils constatent que l'État n'a pas réussi à résoudre le problème crucial du chômage de masse. Les restructurations et fermetures de services publics dans les territoires ont aggravé cette perception de l'inefficacité de l'usage de l'impôt. Ça revient, là je pose la question à Anne Guillouvelc et à Philippe Nemo, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on ferme peut-être des services publics qu'on a l'impression que l'impôt est moins efficace, ou bien est-ce que c'est l'inverse, parce qu'il y a beaucoup d'impôts et que les services publics ne sont pas pour autant plus efficaces, qu'il y a ce rejet et cette exaspération?
Alors, Anne Guillouvelc. Je pense qu'en fait ça influe dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a eu une politique, j'entends le taux de prélèvement le plus important en France, mais il a une contrepartie,
dans les 45,3% du produit intérieur brut.
Qui, si on compare à d'autres pays, la contrepartie n'est pas toujours de même niveau. Donc on avait, parce que c'était quand même notre référence, si on prend quelques années, quelques décennies en arrière, on avait un service public qui était reconnu même au niveau de l'international, au niveau de la santé, des services publics qui fonctionnaient bien, qui permettaient d'avoir le consentement à l'impôt. Après, le niveau d'impôt, il est ressenti de façon différente, effectivement, qu'on soit. Alors, c'est beaucoup les classes moyennes qui ont ce sentiment de pression fiscale, on va le dire comme ça, mais il y a une réalité, c'est qu'on a eu, au fil des années, il y a eu un déséquilibre dans la fiscalité. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu effectivement que la part des classes moyennes est devenue assez importante en termes de prélèvement, et je pense que le sentiment d'injustice aussi est lié au cas de fraude et d'évasion fiscale, et à certains qui passent outre, que ce soit les particuliers les plus riches ou les entreprises. Et ce sentiment d'injustice qui a été exacerbé par certaines affaires qui ont fait les médias, on nourrit ce sentiment. Donc je pense qu'une remise à plat est nécessaire. Après, il faut que le consentement revienne et que pour ça qu'il y ait une meilleure redistribution et qu'il y ait à la base une meilleure contribution de tous.
Une injustice ressentie, Philippe Nemo, du fait notamment qu'il y ait certains contribuables qui échappent à l'impôt à travers de l'optimisation, à travers l'exil fiscal.
Ceux qui fraudent doivent être poursuivis et punis. Mais vous avez des gens qui font de l'optimisation fiscale. Il y a qu'à changer la loi pour qu'on puisse pas la faire. Ceux qui la font de façon légale, c'est absolument scandaleux de leur reprocher, puisque la plupart d'entre eux payent déjà énormément d'impôts. Quand on parle des salaires des footballeurs ou des PDG, on oublie de dire que l'État prend déjà 75% de ce qu'il gagne. Donc si on dit que tel footballeur a gagné 30 millions, eh bien il lui en reste en général le quart.
Ben on peut peut-être pas leur reprocher sur le plan légal, parce qu'effectivement l'optimisation fiscale, l'exil fiscal, ça n'est pas forcément quelque chose qui relève de la loi, Philippe Nemo, mais on pourrait dire que ça relève de l'éthique, c'est-à-dire mais à non, partir du moment où on appartient à une communauté.
Alors vous tombez mal avec moi parce que je suis philosophe.
Ben c'est bien pour ça que je vous parle de ça.
Spécialiste de philosophie morale, et pour moi l'éthique ça consiste pas à se faire voler. Pourquoi est-ce que madame a l'air de penser que la redistribution est une fonction normale de l'impôt? En fait, il y a, depuis que, il faut reprendre ça de façon historique, c'est ce que j'ai fait dans mon petit ouvrage, vous avez toujours eu une perception par les États d'un impôt pour financer deux choses. Pour financer le maintien de l'ordre public, la paix civile, grâce à quoi tout le monde peut faire ses affaires et tout le monde peut vivre, donc c'était vraiment d'intérêt général et il faut que tout le monde y contribue. Et puis deuxièmement, il faut construire des routes, des ponts, enfin un certain nombre de biens qui, comme les économistes l'ont bien démontré, à cause des externalités, ne pourraient pas être fournis adéquatement, en tout cas par le marché. Donc ça justifie que, enfin, un contribuable peut admettre d'être forcé à payer pour construire des routes ou des barrages pour préserver une vallée de l'inondation, enfin des choses comme ça.
Par contre, la redistribution pour absorber, enfin en tout cas réduire les inégalités, ça pour vous, ça ne doit pas relever de l'impôt?
C'est un projet socialiste, c'est un projet partisan. C'est une vision absolument partisane, violente. Fondée sur l'idée de lutte de classe, de haine de classe. Et comment voulez-vous qu'il y ait un consentement à l'impôt si on déclare qu'on va vous voler simplement pour vous rendre plus pauvre?
Ben, j'aimerais savoir ce qu'en pensent Anne Guillouvelque et Jérôme Fourquet. Anne Guillouvelque.
Oui, alors la lutte des classes, malheureusement, elle existe encore. Hein, je suis désolée de vous le dire, mais alors après la redis. Enfin, alors il faut être clair. Il y a un article, l'article 13, la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que chaque citoyen doit contribuer en fonction de sa capacité. Donc ça, c'est le socle commun. Après, quand vous parlez d'optimisation fiscale, qu'il faut pas. Effectivement, c'est la loi qui permet. Donc c'est pour ça que nous on est porteurs d'une remise à plat du système fiscal, en nettoyant notamment les niches qui permettent l'optimisation, qui en efficacité économique, sociale ou environnementale, pour l'instant, n'ont pas fait de preuve. Donc il faut à un moment donné se mettre autour d'une table, débattre de quels sont les besoins d'une société du 21e siècle, comment la finance, et pour nous, alors là effectivement on va être en divergence totale, pour nous c'est une contribution de chacun et que les plus riches, oui, contribuent plus. Parce que je suis désolée, à un moment donné, à un certain niveau de revenus, bah, le reste à vivre, il permet de vivre plus que correctement, même après prélèvement. Donc voilà, si vous dites ça à un smicard et qu'on compare avec un footballeur qui gagne des millions, le reste à vivre n'est pas le même.
Non mais écoutez, il faut comme je le disais, replacer ça dans l'histoire. Nous vivons dans une partie du monde très développée, très riche par comparaison à d'autres parties, l'Afrique noire, etc., qui d'ailleurs se développe en ce moment. Mais nous sommes encore parmi la partie riche du monde. Et puis en plus, c'est l'Europe et l'Amérique qui ont fait la grande révolution scientifique, dont ont profité d'ailleurs les Asiatiques, mais qui est partie d'Europe. Or, tous ces progrès sociétaux, civilisationnels qui ont été faits depuis 250 ans, ont été faits dans des sociétés qui avaient 10% de prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, nous en sommes à 50%. Et moi, je dis que...
45,3%.
Oui, enfin, 40, je suis pas d'accord parce qu'il y a 57% de dépenses publiques.
C'est officiel.
Et donc, si c'est 46, c'est presque 50. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que ça a quintuplé depuis le début du siècle, du 20e siècle. Et du coup, pour obtenir ce résultat, l'État est obligé de tout contrôler. Comme il ne peut pas augmenter sans cesse les taux, bien qu'il le fasse régulièrement, il gagne des ressources supplémentaires en élargissant l'assiette, c'est-à-dire en imposant absolument toutes les relations sociales. Et de ce fait, je crois qu'il stérilise la société et que nous sommes en train de vivre une éclipse totale de notre société qui nous donne un avenir extrêmement sombre. Et il suffit de comparer, si vous voulez, on est les champions du monde du prélèvement fiscal, et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas les plus riches, et les pays les plus riches comme l'Amérique ou la Suisse ou d'autres ont beaucoup moins de prélèvements fiscaux. Donc voilà, c'est une indication.
Jérôme Fourquet, le moindre consentement à l'impôt, est-ce qu'il passe aussi par une remise en cause de sa dimension redistributive, qui est une dimension qui est quand même très importante dans je parlais de pacte social français au début de l'émission.
Alors je pense qu'il est dans la culture historique française, je pense que cette fonction redistributive de l'impôt est encore relativement acceptée par une part importante de la population. Ensuite, tout est question de taux et de proportion. C'est-à-dire que sur le principe, philosophiquement parlant, même politiquement parlant, je pense qu'il y a encore une large adéquation. Néanmoins, c'est installé l'idée, dans une société qui est de plus en plus archipélisée, parcellisée, que certains ne faisaient pas leur part du travail, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que tout en bas de l'échelle, on a ce que dans le langage commun on appelle les assistés ou les fameux cas sociaux qui bénéficieraient de l'assistanat. Hein. Et puis, à l'autre extrémité de l'échelle, on a ceux qui pratiqueraient soit l'optimisation fiscale, soit carrément l'expatriation fiscale avec, on s'en souvient, des cas retentissants de grandes fortunes qui passent les frontières. Et donc, c'est, encore une fois, sur la base d'une montée régulière de la pression fiscale d'une part, et de l'autre côté d'un sentiment d'une société de plus en plus parcellisée avec des groupes qui seraient pour des raisons opposées moins exposés à cette hausse de la pression fiscale, que le corps central de la société l'accepte de moins en moins. Ça ne veut pas dire que les Français ne sont pas pour une forme de redistribution. Et ils sont aussi, vous voyez, encore assez majoritairement, par exemple, favorable à ce qu'on ne privatise pas les aéroports. Beaucoup regrettent qu'on ait privatisé les autoroutes. Donc il y a encore cette culture, j'allais dire colbertiste, hein, d'un pays qui s'est fait par l'État et d'un État qui a besoin de lever l'impôt. D'ailleurs, madame est bien mieux placée que moi pour le savoir, qui a encore aujourd'hui, en termes de capacité de l'État à lever l'impôt, un certain nombre de compétences en France et qui servent aussi de gage quelque part aux prêteurs, parce qu'on sait que la France, l'État français, arrive encore à faire rentrer l'impôt. Donc cette culture-là, elle est bien présente, mais ce à quoi on assiste, à mon avis, c'est une espèce de basculement face à un trop-plein ou un excès.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du discours politique sur la question de l'impôt, c'est-à-dire de ne plus le présenter que comme un coût, et sans jamais, ou en tout cas en expliquant très peu, l'utilité qui peut être celle justement de ce que l'on verse de nos contributions, même si alors sur Internet et sur le fameux site impots.gouv, il y a une adresse maintenant qui s'intitule... l'adresse c'est à quoi sert mon impôt.gouv.fr, ce qu'elle on peut voir comment justement sont dispatchées les différentes contributions, les différents prélèvements obligatoires. C'est une forme de pédagogie qui permet quand même de constater, par exemple, que les retraites, l'éducation nationale et puis l'assurance maladie, ce sont les trois principaux postes. Et là, ce ne sont pas des postes dont certains bénéficieraient davantage que d'autres, Anne Guillovelk.
Oui, je pense que et c'est une des problématiques, je pense que la pédagogie n'est pas assez installée, on va dire, ça c'est, on va dire, l'élité, parce que moi je suis d'une génération où on nous apprenait au sein de l'école le rôle de l'impôt, et peut-être que ce travail-là n'est plus assez fait au sein de l'éducation nationale. Après, je pense qu'il y a, il faut, alors j'entends monsieur tout à l'heure qui disait par rapport au début du XXe siècle, il y a effectivement plus de taux. Enfin bon, il y a aussi une évolution de la société. Il y a eu des époques qui ont marqué, qui ont construit notre modèle social à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et qui a nécessité un financement. Et pour nous, il doit être le plus largement réparti et contributif de chacun. Là où je pense qu'il y a, c'est la répartition de la fiscalité. Aujourd'hui, quand on voit l'impôt sur revenu, sur lequel les gens s'expriment le plus, bizarrement. Hein. Les gens vont s'exprimer au moment où ils reçoivent leur avis d'imposition. Alors que c'est un des impôts les plus justes dans sa construction, puisqu'il est progressif, même si pour nous...
Mais pourquoi la progressivité est-elle un facteur de justice?
Parce que moi j'estime que la progressivité permet à chaque niveau de revenu de pouvoir contribuer en fonction de sa capacité. Donc ça, après, c'est une divergence, effectivement. On voit bien, et les orientations fiscales de ce gouvernement, mais en amont, se tournent plus vers un système proportionnel. La flat tax de la PFU à 30%, c'est la symbolique d'un taux proportionnel. Pour nous, la part de l'impôt sur revenu a largement régressé dans les recettes budgétaires, dans les rentrées fiscales. Elle n'est plus que de 25%. La TVA arrive à presque 50%. La TVA, tout le monde la paye, quel que soit son niveau de revenu. Donc ce sentiment d'injustice, je pense qu'on peut l'entendre, que qu'on soit pauvre ou riche. Et je pense que quelqu'un qui paye sa baguette, qui gagne le SMIC, et quelqu'un qui a des millions d'euros, le paye le même montant. Et ce sentiment, il est ancré dans notre société. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter d'avoir c'est un leitmotiv qui est assez facile, hein, dire moins d'impôts, et ben comme ça, tout le monde sera content. Mais il faut voir le pendant. Moins d'impôts, ça sera moins de services publics. À un moment donné, ça veut dire une individualisation de la prise de risque, l'individualisation de la prise en charge de l'éducation nationale, l'individualisation de la prise en charge de sa santé. C'est les modèles anglo-saxons.
Est-ce que c'est le modèle anglo-saxon, justement, pour vous, qui vous intéresse, Philippe Nemo? Est-ce que cette individualisation, puisque finalement, ça revient à la question qu'on pose ce soir, pour qui sommes-nous prêts à payer l'impôt?
La Suisse n'appartient pas au monde anglo-saxon. Vous avez un monde occidental, où les anglo-saxons ont joué un rôle important d'un point de vue idéologique. Vous savez que je suis historien des idées politiques, auteur de volumineux ouvrages sur la matière, donc je peux en parler savamment. Les anglo-saxons ont pris leur part, mais les Français aussi, et les Allemands, et les Italiens, et toute l'Europe.
En tout cas, est-ce que c'est une approche plus individuelle de l'impôt qui vous paraît la plus pertinente, c'est-à-dire peut-être pouvoir même flécher son impôt?
C'est une question de justice. Je répète que la justice, ça consiste à rendre à chacun le sien. Quand vous avez dit, madame, tout à l'heure, vous avez évoqué la déclaration des droits de l'homme, et vous avez dit que chacun devait payer en fonction de ses facultés. C'est pas le mot exact, c'est en raison de ses facultés. Et il n'y a absolument aucun doute que les constitutionnalistes voulaient dire en proportion. Ils n'ont jamais imaginé l'impôt progressif. L'impôt progressif, c'est une invention d'un Français aussi. On a beaucoup d'auteurs de beaucoup d'idées au XVIIIe siècle. Et ça a été repris par Marx comme programme révolutionnaire. L'impôt progressif, c'était destiné à ruiner la bourgeoisie. C'était pour transformer la société. C'était pas pour la faire fonctionner. Mais ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que vous avez en matière de si vous avez les deux fonctions que j'évoquais tout à l'heure, financer l'ordre public et puis financer les services publics, dans chacun de ces cas, on a un consentement à l'impôt parce que on reçoit quelque chose en échange. Et vous parliez tout à l'heure de l'éducation. Il y avait des manuels républicains qui ont été faits depuis 1875 ou 1879, quand les républicains ont eu tout le pouvoir. Ils avaient ils ont changé l'école. Et dans l'école, qu'est-ce qu'on enseignait aux petits Français? Qu'il fallait payer l'impôt pour avoir des services publics, etc. Et ce qui est survenu à partir de 1900, c'est le triomphe du socialisme. Et en réalité, la France est devenue socialiste. Et elle ne le sait pas. Ce qui est le triomphe ultime d'une idéologie, c'est d'être comme l'air qu'on respire. On n'a même plus besoin de la défendre. Et vous parlez de ce sentiment que vous avez. Vous l'avez, vous et une partie de la population. Et puis apparemment, le syndicat des impôts ont ce sentiment que la redistribution est quelque chose de légitime. Mais moi, je ne l'ai pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette troisième conception de l'impôt qui consiste à payer l'impôt non pas pour avoir des services publics en échange, mais pour devenir plus pauvre, pour que d'autres deviennent plus riches, c'est une conception qui est basée sur une passion basse qui est l'envie, qui a été étudiée d'ailleurs par un sociologue allemand de premier plan et par bien d'autres. Et cette envie est masquée par des idéologies. Alors les idéologies qui présentent comme légitime et comme rationnel le fait de créer l'impôt progressif ou d'avoir une forte fiscalité. Mais ces doctrines, le marxisme, le solidarisme, le keynésianisme à certains égards, Et aussi une doctrine faussement économique qui aurait une baisse plus on est riche, moins un franc supplémentaire a de valeur, si vous voulez. Et ceci, toutes ces doctrines
sont. Vous avez encore au franc, j'ai remarqué. Hein.
Sont scientifiques. Oui, mais enfin, à l'époque où la doctrine en question était proposée, c'était bien cette monnaie. Donc, toutes ces doctrines, je considère, je ne suis pas le seul, qu'elles sont scientifiquement fausses. Elles n'ont aucun fondement scientifique. Et par conséquent, ce n'est qu'une illusion. Et la vérité des choses, c'est que c'est un rapport de force. Un rapport de force politique. Évidemment, les pauvres, comme vous dites, ont tout à fait intérêt à voter pour qu'on impose les riches, parce que les riches sont une poignée, et donc, démocratiquement, ils ne peuvent pas se défendre. Ça, ce n'en est pas moins du vol.
Jérôme Fourquet.
On parlait juste sur la pédagogie tout à l'heure. Je pense que, par exemple, quand les Français... on peut regarder sur le site des impôts, mais tout ça donne des grandes masses. X milliards pour l'éducation, etc. Je pense que aujourd'hui, en termes de pédagogie, il y a des choses qui seraient très, très, beaucoup plus marquantes. On évoquait le cas des hôpitaux tout à l'heure. De dire, mais voilà, une appendicite, c'est tant de milliers d'euros pour une opération. Un traitement anticancéreux pour... votre maman ou ça coûte tant pour ces traitements-là. Et donc là, on voit, parce que sinon, on est dans les grandes masses. On va l'avoir, je pense, ce soir, en direct live. C'est-à-dire que peut-être le président va annoncer un certain nombre de mesures. Tout ça, se chiffrant en milliards pour les Français, tout ça ne fait pas sens et n'est pas appréhendable. Donc soit on s'accroche et on s'appuie sur des... conception politique ou philosophique sur la redistribution, la contribution de chacun, etc. Soit on est sur des ordres de grandeur qui sont palpables et tangibles et auquel cas les Français peuvent davantage percevoir et éventuellement accepter le niveau de prélèvement qu'il aurait demandé.
Et qui permettrait de faire prendre conscience que si vous ne payiez pas d'impôts, voici combien vous devriez débourser.
Alors,
pour
par exemple,
tel...
alors ça peut être une forme de pédagogie, mais l'autre c'est de dire, vous payez tout ça, mais regardez ce que coûte en euros réels, ce que coûterait en euros réels pour le collectif, telle ou telle opération médicale, par exemple. Et puis, dernier point, quand même, sur cette question du poids de la TVA, le sentiment aussi qui s'est très fortement développé dans la population, c'est que l'État est impécunieux et qu'il est à la recherche perpétuelle de rentrées supplémentaires. Et donc,
il y a une folie fiscale, en fait.
Et donc, on a parlé tout à l'heure des gilets jaunes avec la taxe sur les carburants, mais les trois coups de cette pièce avaient été donnés, si vous me permettez l'expression, au printemps, avec les 80 km/h, qui avaient été perçus par une majorité de Français comme une technique pour faire fonctionner bien davantage les radars automatiques, qui d'ailleurs ont commencé à être détruits systématiquement dès le printemps dernier. Et donc, aujourd'hui, cette exaspération fiscale, elle va se loger aussi dans l'idée ou les exemples que, eh bien, on invente des taxes supplémentaires. Un précédent président de la République, François Hollande, pour ne pas le nommer, avait dit que le génie fiscal français était sans limite. Je pense que c'est une opinion qui est très largement partagée, mais qui, du coup, rend les choses extrêmement tendues aujourd'hui.
L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 a été mentionné. On pourrait aussi citer l'article 14 qui dit ceci. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Alors c'est par eux-mêmes ou par leurs représentants. Aujourd'hui, c'est par les représentants de la nation que ça se passe. Ce sont les parlementaires qui votent les lois, et notamment les lois budgétaires. Anne Guillot-Welk, mais est-ce qu'on peut pas aussi voir dans ce moindre peut-être consentement à l'impôt un des effets de la crise de représentation, c'est-à-dire une moindre confiance aussi dans ceux qui sont censés justement vérifier de la bonne affectation des ressources?
Alors, effectivement, il y a ce sentiment de représentativité, une sorte de défiance qui a été un peu marquée par ce mouvement des Gilets jaunes. Au-delà de ça, je pense que les décennies passées ont fait que l'impôt est devenu un sujet d'experts. C'est-à-dire que, et je pense que le besoin aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a besoin de pédagogie, effectivement, je suis d'accord avec monsieur pour dire, ben voilà, le coût d'une opération, d'une appendicite, c'est tel coût. Est-ce que moi, personnellement, avec mes ressources actuelles, je peux le faire, je peux pas le faire? Sinon, je peux pas le faire, et ben, je suis content d'avoir cette contribution qui est collective et qui permet de le financer. Donc, il y a tout un travail travail pour rendre déjà, je pense qu'il y a un travail de remise à plat, d'en finir avec une complexité qui permet en fait d'avoir l'impression d'avoir une nébuleuse et de pas, nous en tant que citoyens, moi je comprends rien au débat fiscal, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui fait que je pourrais m'y intéresser? Parce que les choses peuvent être assez simples si on se met de façon autour de la table. Alors je pense qu'on sera toujours en désaccord avec monsieur Nemo en face, mais c'est dire voilà, moi je pense que si on part des besoins de notre société actuelle, on a parlé de la dépendance qui revient régulièrement, c'est un nouveau besoin qui se fait sentir dans notre société. Comment on la finance? Est-ce qu'on la finance de façon individuelle? Et alors, à ce moment-là, est-ce que chacun d'entre nous peut le faire? Ou est-ce qu'on la finance de façon collective, dans le cadre de l'intérêt général? Si on fait la crise de 2008, s'il n'y avait pas eu la contrepartie de cette redistribution, mais on aurait été très très mal socialement. On a permis d'avoir nos services publics, les prestations sociales ont permis d'avoir un espèce de matelas pour éviter ce qui a pu se passer aux États-Unis, etc. Donc, je pense que cette redistribution, elle est nécessaire, mais elle passe par une remise à plat du système fiscal pour qu'il soit moins complexe et plus stable. Parce que l'instabilité fiscale, c'est aussi une difficulté, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises.
Je reviens très vite vers vous, Philippe Nemo, mais sur la question du lien qu'il pourrait y avoir, Jérôme Fourquet, entre la crise de la représentation et cette question du consentement à l'impôt, est-ce que vous feriez ce lien que j'évoquais à travers cet article 14 de la Déclaration des droits de l'homme?
Alors pas forcément, je pense qu'effectivement c'est plus le côté nébuleux et très emberlificoté de cette usine à gaz fiscale aujourd'hui qui pose problème. Plus, on disait tout à l'heure quelques exemples marquants, mais il y a eu des contre-exemples marquants de fiascos étatiques, je pense à l'écotaxe ou d'autres, où les Français ont eu le sentiment que l'argent était jeté par les fenêtres. Et donc ça contribue à mon avis davantage à l'exaspération fiscale en disant l'argent n'est pas bien employé, n'est pas plus, c'est la gabegie, que le fait que ce soit des parlementaires qui fassent la loi. Dernier point, on parlait tout à l'heure des privatisations, ce qui revient quand même régulièrement, c'est cet exemple des autoroutes qui auraient été cédées un coût qui était très inférieur à la valeur des actifs. Et donc là aussi, les Français se disent, mais en fait, on brade par mauvaise gestion ou manque de professionnalisme un certain nombre de nos actifs. Et ensuite, nous sommes, pauvres contribuables, mis systématiquement en contribution. Donc c'est ça aussi qui nourrit ce ras-le-bol fiscal.
Philippe Nemo, donc vous nous dites la pression fiscale, elle est beaucoup trop importante aujourd'hui en France. On est dans un régime socialiste. Il faudrait donc diminuer les impôts. Est-ce que vous vous dites, voilà ce à quoi je suis prêt à renoncer, ou voilà ce que je suis prêt à assumer, moi, de manière individuelle, plutôt que de le faire assumer par, on va dire, la solidarité nationale? Est-ce que vous pensez les choses comme ça? Et si oui, comment vous y répondez?
Parce que j'observe que les pays les plus riches, qui sont devenus les plus riches, qui ont fait la révolution industrielle dont on parlait tout à l'heure, sont ceux dans lesquels les gens ont été libres d'utiliser leurs biens comme ils l'entendent. Et là, puisque vous avez invité un philosophe, je vais vous faire un peu de philosophie. On est dans un régime socialiste, disais-je, en un sens précis.
Ça, on l'a bien entendu.
En un sens précis, c'est que c'est une pensée holiste. J'emploie un mot savant. Une pensée du tout, si vous voulez. Et c'est la pensée selon laquelle toutes les richesses qui existent en France appartiennent à la collectivité. Alors que le citoyen de base pense que ce qu'il a gagné, c'est à lui. Sa maison qu'il a achetée, qu'il a embellie, c'est à lui. Et parce qu'il l'a embellie avec son argent et à la sueur de ses bras, l'État va augmenter les taxes parce que la maison a plus de valeur. Donc c'est quelque chose d'épouvantable.
Peut-être jusqu'au jour, enfin je ne vous le souhaite pas, mais où vous allez avoir un gros pépin de santé et où vous serez peut-être content que vos impôts servent,
mais bien sûr,
par exemple, à financer...
Ça s'appelle l'assurance. C'est les assurances. De la même façon, si ma voiture est emboutie dans un platane, je suis content que mon assurance me rembourse. Mais est-ce que les Suisses sont moins bien soignés que les Français? Mais répondez-moi.
Je ne sais pas, je ne suis pas suisse et je ne connais pas suffisamment la Suisse pour vous répondre.
Je vois que ma question vous...
Les gens ont l'air en très bonne santé.
Ils sont mieux soignés que les Français et ils n'ont pas le même système. Mais je termine sur la philosophie. C'est que vous avez une expression extrêmement parlante employée par les gens de Bercy qui est absolument affreuse ou sordide, je ne sais pas comment dire, qui est l'expression de dépense fiscale. Quand on ne perçoit pas un impôt qu'on pourrait percevoir de par la force de la loi ou la loi de la force, eh bien, on considère que c'est une dépense fiscale. Autrement dit, l'argent qu'on laisse aux gens, c'est un argent qu'on leur a donné. Ce qui revient à penser, dans le fond de la mentalité, que cet argent que les gens croyaient être à eux, les gens de Bercy croient qu'il est à eux, les gens de Bercy. Donc il y a une incompréhension fondamentale. C'est pareil pour la question d'héritage. Quand vous avez hérité une petite maison, que vous l'avez agrandie et que vous vous apprêtez à mourir, vous apercevez que l'État va en prendre la moitié. De quel droit ? Ce n'est pas à lui, tout simplement. Les ressources que les citoyens ont n'appartiennent pas à l'État. Et ils doivent en donner une partie pour faire fonctionner l'État, mais il est faux que cet argent soit virtuellement à la disposition de l'État.
Puisque vous avez mentionné plusieurs fois la Suisse, et pour terminer cette discussion, il y a quelques mois de cela, en Suisse, il y a eu un référendum qui portait sur la redevance, suppression ou pas de la redevance. Il se trouve que c'est un débat qui, semble-t-il, est en train d'arriver en France, notamment à travers une enquête qu'a fait l'IFOP pour le JDD. Ça a été publié hier. Je rappelle, Jérôme Fourquet, que vous êtes le directeur du département opinion à l'IFOP. Alors, il y a une série de mesures que pourrait annoncer Emmanuel Macron. C'est le thème de cette enquête d'opinion. Pour chacune d'entre elles, diriez-vous que vous y êtes favorable ou opposé? Sur la suppression de la redevance audiovisuelle, favorable à 80%. Ce chiffre me paraît, moi qui travaille pour France Culture, audiovisuel public, assez inquiétant, voire effrayant. Et en plus, est-ce que la question là, elle n'est pas un peu biaisée? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne manque pas justement la pédagogie de dire, ben voilà à quoi elle sert la redevance audiovisuelle? Peut-être qu'il n'y aurait pas eu 80%, parce que tout le monde est pour payer moins d'impôts.
Alors, tout le monde est pour payer moins d'impôts, ce que montre ce sondage, puisque sur pas mal des mesures qui étaient testées, vous avez observé des taux qui sont très, très importants. On a effectivement le fait de savoir si on a des contreparties qui sont proposées, rentre aussi dans le jugement que l'opinion peut avoir. Alors, on rappellera aussi que quand on regarde les audiences d'un certain nombre de médias publics, il y a toute une partie de la population qui n'est pas consommatrice ou qui n'est pas auditeur ou téléspectateur de cet audiovisuel public. Et donc, ça peut aussi expliquer le fait que, hormis le ras-le-bol fiscal, une part significative des Français ne soit pas forcément prête à payer pour cela, puisque ce sont des services qu'ils n'utilisent pas.
Juste d'un mot, Philippe Nemo, qui est invité aujourd'hui de France Culture, payer la redevance, ça vous semble une bonne idée?
Brièvement. À condition qu'elle soit moins chère et que mes programmes soient meilleurs, mais je suis pas contre le principe. Je voudrais juste dire un mot. Je constate qu'on n'est pas d'accord sur le fond et on devrait pouvoir le devenir s'il y avait plus de discussions. Par des gens de bonne volonté comme aujourd'hui.
Ah ben voyez, on termine sur une note absolument positive. Merci beaucoup en tout cas justement d'avoir participé tous les trois à cette discussion entre personnes de bonne volonté, bien qu'ayant quelques désaccords. Philippe Nemo, Jérôme Fourquet et Anne Guillot-Welk, les références des uns et des autres bibliographiques, c'est sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Cette émission, vous pouvez la réécouter, la télécharger, vous pouvez également nous écrire. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Jean-Christophe Briançon, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Cyril Marchand, émission réalisée par Peyre et Legras, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige.